écoutez, puisque j'ai le micro, je vais déjà vous remercier pour cette fresque absolument superbe qui donne des éléments de compréhension extrêmement riches. J'ai juste une petite question de détail. Vous évoquiez la structuration du rapport ville-campagne dans différents pays européens en comparant la manière dont ça s'est produit en Grande-Bretagne, en France et en Italie. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots de l'Allemagne?
Ah, c'est pas un hasard si je n'en ai pas parlé. ça s'est quand même construit différemment. C'est-à-dire que en Allemagne, pour le coup, il y a un grand écart, et c'est pour ça que c'est difficile d'en parler de façon un peu générale, parce que la Bavière est un cas, et on pourrait dire d'une certaine façon que nous sommes un peu bavarois, alors que si l'on prend toutes les Länder qui ont connu cette très forte industrialisation, ça se pose complètement dans d'autres termes. Enfin, et là, l'urbanisation et l'industrie ont été dominantes et l'agriculture est apparue comme complémentaire pour alimenter les villes, mais sans être un enjeu symbolique et politique comme il l'a été.
Comment vous expliquez ces trajectoires si divergentes à partir de ce que vous appelez la première mondialisation, en fait, disons de la séquence révolution industrielle, entre la Grande-Bretagne et la France? Alors, je sais que c'est une question immense, mais ça interroge quand même beaucoup.
Excusez-moi, c'est la question que je voulais poser.
Oui, allez-y.
Donc, je voulais compléter.
Votre micro, s'il vous plaît.
Excusez-moi, c'était aussi le sens de la question que vous voulez poser, parce que ça m'a surpris dans votre exposé. Du fait des lois Le Chapelier, bah vous dites c'est parce qu'il y a eu la fin du vagabondage, la concentration dans les villes, mais en 1791, il y a les lois Le Chapelier, la fin des corporations, l'interdiction du vagabondage. Du coup, je me posais la même question. Alors, vous disiez, est-ce que c'est l'instabilité politique? Enfin, vraiment, ça m'intéresserait aussi.
Oui. Sur la Grande-Bretagne, il y a quand même eu, c'est vraiment une volonté très, très puissante qu'on pourrait interpréter de la façon suivante, c'est que dès la fin du XVIe, il y a vraiment une bourgeoisie anglaise qui est déjà fortement structurée et qui fait ses affaires. Il y a un vrai partage du pouvoir, de l'argent et du territoire entre l'aristocratie foncière et la bourgeoisie industrielle naissante. Et la bourgeoisie, et finalement, ce grand enfermement arrange les aristocrates et arrange les bourgeois. Il y a une convergence d'intérêts, si vous voulez, qui est très forte, très tôt. Alors que en France, on est quand même dans un dispositif de montée du pouvoir, d'un pouvoir central et de l'absolutisme. La couronne, le roi cherche à tenir l'ensemble. Enfin, c'est-à-dire que l'arbitrage, au fond, on pourrait dire que le pouvoir royal à travers Henri IV et puis après Louis XIV, enfin, on la main sur ce processus d'industrialisation, c'est quand même eux qui donnent l'autorisation de la mise en place des manufactures, c'est pour ça qu'on les appelle les manufactures privilégiées, ils les répartissent volontairement sur le territoire, ce qui est un moyen de construire l'unité du royaume à travers la production. Hein, c'est quand même toujours la question de l'unité, le pouvoir, ce pouvoir absolu, il se pense dans l'unité, dans l'unité de ce qui deviendra la nation, hein, du pays. Donc, je vois ça comme ça. Mais je ne suis pas historien, je suis... Je vais fouiller chez les historiens pour essayer de comprendre mon problème. Donc je marche quand même sur des œufs. Hein, mais enfin, je pense que ça tient un petit peu la route, mais tout ça a le mérite évidemment d'être approfondi et débattu. Alors pourquoi ensuite, pourquoi est-ce que ça tarde tant? Ben, si vous voulez, c'est que à partir de après la Révolution, comme vous le dites, il y a l'instabilité politique qui fait que quand même, bon, les émigrés qui partent, enfin tout ça, donc il y a aussi des élites qui s'en vont. Donc il y a le fait que les lois protectionnistes, quand même, vous rendez compte, traversent toute la première moitié du 19e. Donc elles freinent la production, hein, très, très fortement. Je pense également que, il y a une crainte chez l'élite aristocratique qui revient avec la Restauration. Il y a quand même vraiment une crainte des prolétaires, enfin, du monde ouvrier. Il n'y a pas du tout envie que tout ça bouge beaucoup. Hein. Il faut quand même vraiment attendre. Vous vous rendez compte, il faut attendre Louis-Philippe pour faire venir des Anglais dans la vallée de Basse-Seine, pour installer des machines à vapeur, pour installer une ligne de chemin de fer. Et tout ça se fait au compte-gouttes, quoi. Au compte-gouttes, parce que tout le monde a peur.
C'est vrai, à ce propos, il y a un bouquin qui s'appelle « La société de confiance » et pendant 600 pages, Alain Perfit essaie de comprendre pourquoi il y a eu 200 ans de décalage en termes de développement entre les sociétés du Nord et la France. Donc ça peut être... J'ai pas encore fini. Moi, ma question, en fait, c'était finalement ce que vous mettez en valeur dans votre phrase, c'est que finalement, il y a eu... depuis longtemps des volontés et des directions assez claires, que ce soit à la fois à travers le fait de dire on va développer toutes les campagnes avec les sociétés de manufacture, on va essayer de stabiliser la République sur les campagnes, des choses, et puis même le fait que dans les années 60 qu'il y ait un programme fort qui soit porté par les syndicats de jeunes agriculteurs. Donc c'était des projets très clairs, structurés et portés socialement. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que clairement, donc c'est le chaos. Enfin, disons, vous expliquez la rupture, le fait qu'il y ait des malaises, etc. Et il n'y a rien pour compenser non plus, c'est-à-dire que le projet de société, alors M. Le Foll a commencé en esquissant, mais bon voilà, le changement de ministre fait qu'on n'en parle plus, enfin, à ma connaissance on n'en parle plus trop, enfin, il n'est pas inscrit dans un portage social qui fait aussi que...
Vous avez raison, moi je pense qu'une des grandes difficultés devant laquelle on se trouve, c'est que ce monde, socialement, est devenu très étroit. Il ne représente, et non seulement il est étroit, il est éclaté. Et donc, on ne peut pas rejouer la même partie, parce que vous n'avez pas en face de vous une force sociale qui porterait le projet et qui le ferait accepter de façon conflictuelle par les autres, si vous voulez. Hein. Et ça, c'est une grande difficulté aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement vrai pour le monde agricole, c'est comment on porte des politiques, comment les politiques publiques peuvent-elles être portées par des forces et pas seulement par l'État. Et donc là, sur la question agricole, c'est vraiment typique. Et vous comprenez bien quand vous essayez, ce qu'a fait Stéphane Le Foll dans sa loi, d'essayer de faire porter un projet sur l'agriculture au nom d'un intérêt qui serait un intérêt partagé au-delà du monde agricole, c'est-à-dire les questions de sécurité sanitaire, les questions d'environnement, etc. Bon, en gros, porté par des classes moyennes, hein, qui y verraient un intérêt, comment vous les saisissez, les classes moyennes? Elles n'ont pas un dispositif organisationnel porteur de représentation, etc. Donc la question de l'assise des politiques publiques et d'un projet politique qui concerne directement un groupe, quand ce groupe devient aussi minoritaire et que ses intérêts ne sont pas forcément en convergence avec les intérêts du reste de la société, ça devient sous la Troisième République, quand les paysans représentaient la moitié de la population, vous pouvez construire un projet qui est porté par une force sociale, vous l'avez en face de vous. Quand vous êtes encore sous la Ve République, que vous avez encore un petit quart de la population, et que notamment toute la jeunesse est avec vous, vous pouvez porter un projet et vous demander aux vieux de se taire, parce que ça va comme ça, hein. Et puis ça finit par passer. Mais comme vous êtes au début du XXIe siècle, que vous avez à l'intérieur même de ce groupe des intérêts très divergents, et quand même plus ça ne converge pas avec le reste. Parce que en 60, ce qui était intéressant, c'est que les jeunes agriculteurs voulaient produire. On leur dit allez-y, plus ils produisaient, plus la couverture alimentaire de la France était assurée, plus le panier de la ménagère s'allégeait. Il y avait un moment de grâce, c'est-à-dire que la convergence entre les intérêts d'un groupe professionnel et l'intérêt général était patent. Aujourd'hui, ce que l'on cherche, ce que le politique cherche, c'est comment faire converger les intérêts bien compris du monde agricole, et légitime, et l'intérêt général. C'est ça le point de jonction et la difficulté de trouver ce point de jonction. Parce que la représentation de cette convergence d'intérêts n'a pas de soi. Oui, allez-y.
Oui, c'est ce que vous dites sur le fait qu'en plus.
Vous pouvez appuyer.
Voilà, c'est mieux. Ce que vous dites sur le fait qu'il y ait un dialogue devenu très difficile, pour ne pas dire impossible. Est-ce que la réponse de passer par les territoires vous paraît pertinente à ce moment-là? Parce que pour le coup, c'est la réponse nationale qui met en difficulté. Est-ce que vous voyez des perspectives sur des dialogues locaux?
Ah oui, c'est... Oui. Bien sûr, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est que le dialogue national est assez largement... est assez largement bloqué parce qu'il est construit sur des jeux de rôle, pour faire vite, sur des positionnements institutionnels un peu obligés. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard les organisations professionnelles nationales sont très hostiles à toute mesure de régionalisation de politique agricole. Que ce soit sur le foncier, que ce soit sur la formation professionnelle, et ils veulent garder une vision nationale et une négociation nationale. Parce que ça leur permet de... Et puis ils pensent que s'ils vont vers des dialogues régionaux, ils vont éclater, ils vont encore moins exister. Enfin, c'est pas mon point de vue, mais c'est un ressenti. Donc... on s'aperçoit que quand on prend... si vous prenez la question, on y reviendra demain, mais sur la question de la régionalisation du deuxième pilier, qui est un grand sujet, on voit qu'il y a là des possibilités d'apprentissage, de dialogue et de négociation, où les postures ne sont pas les mêmes, et où il y a une volonté d'aboutir qui est plus important. Ce sont d'autres difficultés qui émergent, hein. Mais je suis d'accord avec vous. Et on le voit même, je suis très frappé par exemple, qu'un très grand nombre de départements, donc pour autant ce n'est pas la compétence, ont une commission agricole et développent, sinon une politique agricole, au moins un dialogue autour des questions agricoles, alimentation de proximité, etc. Et que à cette échelle-là, des convergences émergent toujours. Et ils sont beaucoup moins bloqués. Et c'est forcément une voie qu'il faut développer. Enfin, je rejoins complètement ce que disait Stéphane Lefoy tout à l'heure autour de ça, bien sûr. Y compris, par exemple, sur l'installation. Il y a beaucoup moins de blocages sur les installations hors cadre familial et sur les normes d'installation dans les collectivités et dans les régions, qu'il y en a au niveau central.